toutes, salut à tous. Vous regardez BFM Alsace, Cop Racing. Chaque lundi soir, l'actualité du Racing Club de Strasbourg et le calendrier échevelé du Racing qui enchaîne les matchs deux encore au programme cette semaine autour de la table de Cop Racing ce lundi soir. Fabien Carlet et Maxime Ducap, salut messieurs.
Salut.
Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau en direct. Comme chaque soir, on est ensemble pour une heure. Fabrice Venet en face. Salut Fabrice.
Bonsoir.
En pleine forme.
Toujours.
Toujours aux couleurs du club. Pull bleu, rayé blanc. Un petit peu de noir. Ça, c'est pour le match de hier après-midi. Au sommaire de cette émission, on va revenir sur le match de ce dimanche. Le Racing qui a concédé un petit, triste match nul face au Paris FC 0-0 hier après-midi à la Méno. Le deuxième nul et vierge consécutif pour les Strasbourgeois. Qui voient leur, on va en parler, leur mission se compliquer au classement où les écarts se resserrent, derrière eux notamment, et les places européennes s'éloignent lentement mais sûrement. Et on va parler de la suite du programme strasbourgeois avec encore deux matchs au programme cette semaine. Le match retour face aux Croates de Rijeka, ce sera jeudi soir à la Méno, avant un déplacement du côté de Nantes à la Beaujoire ce dimanche. Voilà pour le programme, installez-vous confortablement, on est parti. Et je vous rappelle que vous pouvez réagir à cette émission, nous faire part de vos commentaires, poser vos questions aux chroniqueurs de Cop Racing. Le numéro s'affiche en bas de votre écran, 06 10 82 77 35 par SMS, par WhatsApp, par ce que vous voulez, signaux de fumée, n'importe quoi. Vous nous envoyez tout ça en signant avec votre petit prénom quand même, ça sera beaucoup plus sympa. On va se regarder le classement, messieurs, de cette Ligue 1 après ce match nul. Le Racing, messieurs, fait la mauvaise opération de la journée avec un écart qui se resserre notamment, avec ça a gagné devant, ça a gagné derrière. Derrière aussi, le Racing qui stagne en tout cas, qui a repris néanmoins sa 8e place. Mais les Strasbourgeois voient lentement, Maxime, le train de l'Europe s'éloigner. On parlera du classement et du contexte, des coupes aussi qui viennent charger le calendrier du Racing. Est-ce que déjà, pour revenir sur ce match face au Paris FC, tu es un grand fan, je le sais, des matchs à 15h. Du coup, tu évites de manger trop lourd avant, parce que sinon, sieste garantie.
Ah ben, je pense qu'ils étaient 30 000 à faire la sieste au stade. Parce que outre 30 000 plus 11, le Paris FC allait 22. Parce que ce soit dans les tribunes ou sur le terrain, il y avait quand même peu d'activité, peu d'intensité. Ça a été un très triste dimanche après-midi, en tout cas à la Méno. Moi, j'étais derrière mon écran, j'ai été scotché par le peu d'ambiance. Et même quand le COP s'est un peu réveillé à la 15e... Oh, mon Dieu, que ça devait être triste dans le stade. Je sais que toi, tu y étais. Mais clairement, il y a tout à jeter. Tout à jeter sur le
stade. Rien
sur
à garder, match, en tout cas. Veux dire.
Ah, rien à garder.
Vraiment. Ah oui, c'est juste un jour sans où tu as sauvé des choses quand même dans cette partie.
Bah, j'aimerais bien sauver quand même mon dimanche après-midi en ayant bravé le froid pour aller au stade de la Méno. Donc, et j'ai envie de dire quand même que j'ai déjà vu pire cette saison, notamment le match à Toulouse, je crois, où il y avait quelques 0-0 d'anthologie avec zéro frappe cadrée. Là, on en a quand même eu trois. Ouais. Donc il y avait quand même quelques.
C'est pas très difficile.
Quelques bricoles à se mettre sous la dent. Je pense que s'il y a une occasion pour Ouattara en début de rencontre qui est sorti par Kevin Trapp, le gardien du PFC. Si le gardien ne réalise pas cet arrêt, c'est sans doute pas le même match non plus. Après, c'est vrai qu'on pouvait partir, quitter le stade à la 60e. Il ne s'est plus rien passé les 30 dernières minutes.
Pour éviter les bouchons à la sortie.
Il n'y en avait pas trop non plus.
Non, parce que beaucoup de gens sont partis avant. Oui, un petit peu. Fabien, ça a été un match compliqué. Je dis pas qu'on le sentait venir, c'est toujours un petit peu facile à la fin. Est-ce que c'est quoi ? C'est l'accumulation des matchs. C'est le Racing qui, souvent, contre les équipes de deuxième partie de tableau, paradoxalement, on avait l'impression que ce calendrier allait être un peu plus favorable. On a toujours du mal contre ce genre d'équipe.
Bah, on a du mal parce qu'on a du mal à attaquer un bloc médian, un bloc plutôt bas également. Donc c'est vrai que c'était un petit peu compliqué. On a vu un Racing qui manquait d'inspiration. Alors je suis un petit peu plus nuancé parce qu'il y a des choses qui ont été positives, notamment l'assise défensive qui était plutôt relativement intéressante. On a été en difficulté que vers la fin où justement on voyait que physiquement c'était un petit peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'en termes d'inspiration, de créativité, notamment par rapport à nos milieux de terrain, à nos joueurs de couloir qui doivent créer des différences, on est très en deçà de ce qu'on pouvait attendre du Racing Club de Strasbourg. Et il faut laisser aussi toute cette réussite au PFC qui a bien défendu, qui a tenu à chaque fois ses positions, qui était plutôt incisif dans les duels. On a gagné très peu de duels balle au pied, hein, on l'a vu sur l'ensemble du match, et du coup on avait du mal à créer nos décalages. On a très peu trouvé Panicelli aussi, que ce soit sur des remises, et les 2-3 fois où on est arrivé à le trouver, ben, il était dangereux, seulement on manquait un petit peu d'efficacité. Donc c'est vrai que c'était un match plutôt terne, mais aussi avec des circonstances atténuantes pour le Racing Club de Strasbourg.
Maxime, c'est une constante, hein, d'avoir des difficultés contre ces équipes, parce que le Racing est craint aussi, hein, tout simplement par ces équipes qui savent qu'il y a un potentiel offensif, que le Racing aime trouver de la vitesse, de la profondeur. contre cette, ces blocs bas, comme le disait Fabien, c'est quand même une difficulté récurrente qu'ont beaucoup d'équipes d'ailleurs qui proposent du jeu, mais c'est vrai que là on n'a pas trouvé la, encore la, la manière de, quoi, de varier un petit peu le, l'animation offensive.
Oui, alors j'étais un peu trop sévère sans doute dans mon introduction, mais ce qui est évident c'est qu'on sent que cette équipe, alors outre l'aspect physique du calendrier qui explique quand même certaines choses, mais il y a une certaine usure mentale certainement chez les joueurs qui fait qu'on sent qu'il y a un manque d'engagement. Je ne jette pas la pierre, c'est naturel quand vous enchaînez les matchs tous les 3 jours. Il y en a quand même 8 en 6 semaines sur le mois de...
On arrive au bout de la séquence, février, là, enfin, encore et mars, 8 jours.
Forcément, l'influx psychologique et le mental que vous pouvez mettre, l'énergie mentale que vous pouvez mettre dans la concentration d'avant-match et au courant des 90 minutes... Forcément, ben, c'est normal, vous choisissez vos adversaires. C'est frustrant.
C'est normal, vraiment. Enfin, moi, j'entends bien la baisse physique, que physiquement, quand on enchaîne les matchs, on parlera des rotations et du coaching tout à l'heure, mais sur l'engagement, hein, tu dis on ne peut pas être engagé à 100%.
C'est une circonstance atténuante. Bien sûr qu'en tant que supporter, que je sois en tribune ou devant mon écran, je râle quand je vois le manque d'impact d'un NCISO qui est également Barco, hein, qui sont quand même les pièces maîtresses. L'absence de Moreira est quand même à noter. Panicelli a été très peu servi. Si ces trois-là ne sont pas dans un rendement efficace et qu'il manque Moreira, forcément, il manque quand même l'essentiel de vos joueurs qui apportent une plus-value. Mais même, vous le voyez, la différence entre sur des matchs où on a joué le top 5 et des matchs au Serre. Paris FC, c'est pas la même équipe. Dans l'engagement, dans l'impact, c'est pas la même équipe. Et c'est des circonstances atténuantes qui peuvent expliquer quand même cela, surtout lorsque vous êtes basé sur un 11 de départ qui évolue très peu, même s'il y a eu des changements hier. Mais malheureusement, j'en reviens à la même chose, vous avez un effectif qui est limité, qualitativement, il faut se le dire, même si aujourd'hui il y a plus de 33 joueurs professionnels, en termes de qualité, cet effectif, il est limité. Donc O'Neill et Rosignor avaient la même difficulté, ne peut que tourner avec une quinzaine de joueurs.
On parlera du coaching effectivement de Gary O'Neill. Fabien, tu voulais intervenir?
Non, je voulais rebondir sur l'aspect psychologique. Il est clair que voilà, il y a des affiches, il y a des matchs un petit peu moins qui donnent envie, voilà, moins clinquant. Mais on peut mettre aussi cet aspect-là sur le côté mature des joueurs. Voilà, on a tendance souvent quand on est un jeune joueur justement de vouloir se montrer, notamment dans ce football un petit peu merchandising, business, et on a tendance à vouloir se montrer. C'est vrai que les grandes affiches, on a plus de visu, on peut se voir davantage sur ces matchs un petit peu plus faciles, on les prend peut-être un petit peu à l'ingénieur, on a un peu plus de relâchement. Et c'est vrai que quelquefois, même psychologiquement, c'est un petit peu plus compliqué, d'autant plus qu'on joue sur les 3 jours, on voit qu'il y a un petit peu plus d'énervement, on voit qu'il y a un petit peu plus de nonchalance, on voit notamment au niveau des passes ratées, Barco qui est un joueur normalement excellent dans la conservation du ballon, et ben il perd pratiquement une vingtaine de ballons si je me trompe pas hier. Donc c'est des éléments sur lesquels voilà, on peut les prendre en compte, et notamment en termes de concentration, et c'est là encore où le Racing a un grand gap à faire, c'est que ces jeunes joueurs ont besoin encore davantage de matchs comme cela, d'accord, pour avoir beaucoup, 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 beaucoup de force en termes de concentration beaucoup plus importante pour pouvoir justement réagir dans toutes ces situations-là.
Fabrice, tu entends cet argument de difficulté à se motiver, entre guillemets, sur ces petits matchs, c'est presque, ça paraît...
Ben c'est audible, parce que là il y avait quand même ce match de Coupe d'Europe, et en règle générale on se rend compte, surtout dans le football français, que les clubs ont du mal à performer le jeudi soir et le week-end qui suit après. Je crois que c'était le cas pour Lyon ce week-end, qui n'a pas gagné au Havre. Donc c'était le retour de la Coupe d'Europe, donc ça inclut des déplacements, un autre environnement de match aussi que le côté, l'aspect routinier de Ligue 1. Ensuite, sur ce que Fabien dit sur la concentration, en effet, on sent la jeunesse, ce manque d'expérience aussi de gérer les matchs peut-être un peu différemment. Autant le match en Croatie, en attaquant très vite, en donnant tout dès le début, c'était plutôt bien vu. Là, ils ont essayé de faire pareil, mais ça n'a pas du tout pris. Donc je pense qu'il y a encore un gap à franchir au niveau de la maturité, en effet.
Vous rejoignez en tout cas sur ce point. Alors on va avancer dans cette émission, parce que le temps tourne déjà. On va parler des absents qui ont tort, paraît-il, souvent. Alors certains sont généralement à leur corps défendant en football, parce qu'ils sont blessés dans ces cas-là. Maxime, la liste n'est pas spécialement longue, mais en tout cas ce sont des absents de poids. Et alors il faut le mettre en rapport effectivement avec l'effectif dont tu parlais, ou la longueur, ou plutôt la... l'anti-longueur, là, la courtesse. Le fait que le banc du Racing soit très court, j'invente des mots ce soir. C'est très compliqué. On voit, pourtant, il ne manque que, entre guillemets, Emmanuel Emega depuis plusieurs mois, même maintenant. Moreira, surtout sur son côté dont tu
parlais tout à l'heure. Tu le mets dans l'effectif, Emega ?
Bah, je sais pas. Est-ce qu'on le paye encore ?
Ah, bah,
a priori, il est toujours là.
Non, mais c'est une vraie problématique aujourd'hui.
J'ai un peu la même question, c'est vrai.
Est-ce que Emega fait partie de l'effectif du Racing Club de Strasbourg encore ?
Il est blessé et censé revenir à la fin du mois.
Oui, on sait très bien que cette blessure cache quand même d'autres choses. Mais pour revenir sur les quelques absences, c'est vrai que l'absence de Moreira, elle pèse. Il y en a d'autres, hein, même si aujourd'hui je pense qu'il est plus facile de compter sur des remplaçants sur le bloc défensif que dans l'animation. Parce que encore une fois, il vous manque deux joueurs, un Moreira, un Enciso, même en méforme. Quoique, on en reparlera. Je pense que Enciso a mérité de sortir hier après-midi. Il y a d'autres solutions.
Il aime pas ça généralement. Hein. Un peu de joueurs aiment ça. On peut en parler mais lui le montre.
Mais on peut en parler. Bon, on met ça de côté. On met ça de côté. Hein. Clairement, parce que je pense qu'effectivement, il y a un choix diplomatique de la part d'O'Neill de ne pas sortir Enciso. Mais si vous voulez, on en parlera un peu plus tard. Mais pour revenir sur cet effectif très restreint en qualitativement parlant, notamment dans l'animation offensive, limite les choix d'O'Neill. Il a beau dire que le championnat reste une priorité, en tout cas de coller aux six équipes qui restent dans le doute, peut-être qu'il peut y avoir un accident. Mais on peut pas non plus reprocher à O'Neill de jouer, parce que j'ai entendu sur ce plateau et je l'ai entendu dans d'autres émissions, qu'il faut prioriser parce que l'effectif est limité, et dire ouais mais on ne joue pas toutes les compétitions. Il faut être à un moment
on
donné.
On peut le faire comme Nice, hein, s'aborder la Coupe d'Europe chaque année pour finir dernier de Conference League ou de championnat.
Le chemin aujourd'hui vers la qualification européenne est plus court par les coupes que par le championnat.
Mais un peu plus, peut-être encore un peu plus aléatoire. Fabien, pardon.
Non, après, c'est particulier parce que Gary O'Neill, il arrive avec une obligation de résultat, il arrive avec un groupe qui connaît pas trop, puisque justement, il remplace son entraîneur.
Qu'il n'a pas choisi.
Voilà, qu'il n'a pas choisi. Et donc, du coup, il s'est focalisé sur une équipe type parce que justement, il avait besoin de mettre ses joueurs en confiance.
Oui.
Le turnover était plus compliqué, peut-être, qu'un entraîneur qui était là depuis le début de saison. Donc, voilà, il est parti un petit peu sur cette optique-là. Manifestement, ça a plutôt bien fonctionné, mais il voit aussi que là, peut-être maintenant, il arrive à la limite de ce système-là, parce qu'avec des matchs tous les trois jours, avec la possibilité de jouer sur trois compétitions, eh bien, les organismes sont fatigués, et justement, on ne répond plus de la même manière, et on voit notamment, comme tu en as parlé, un Enciso, un Barco, qui ont envie de jouer tous les matchs, eh bien, c'est pas possible à très haut niveau. C'est plus possible maintenant, on ne peut plus jouer avec une haute intensité, avec des courses à haute intensité.
Surtout avec le style de jeu imposé par Gary O'Neill, avec des jeux très, très énergivores. Question téléspectateur, au numéro qui s'affiche en bas de l'écran, pourquoi le Racing n'a pas demandé le report de son match comme le PSG l'a fait contre Nantes? Voilà une solution à nos problèmes, décalons les matchs, Fabrice.
Bah pourquoi pas. La question peut se poser en cas de finale de Coupe de France, éventuellement, puisqu'on se rapproche d'une hypothétique autre finale, mais on en reparlera également plus tard. Donc pourquoi il n'a pas demandé, ça c'est une bonne question qu'il faut poser au président. Peut-être qu'il n'a pas le même poids que le président du Paris Saint-Germain auprès des instances.
En creux, il y a le sujet qu'on évoquait qui est effectivement un problème de banc et de rotation. Ça, on revient quand même assez régulièrement, je ne dis pas chaque lundi, mais presque là-dessus.
Oui, et en corollaire, pour moi, il y a le problème aussi, enfin le problème, le cas du mercato du Racing. Qui est un club très actif en règle générale sur ce tableau-là. Et puis là, bon, on a recruté Fofana, qui a très peu joué devant. On a recruté Yacine au milieu, qui tarde un peu à montrer le talent qui germait en lui du côté de Dunkerque. Et puis alors, la grosse inconnue, c'est le défenseur, Sancel Migno, qui a joué 2 minutes, je crois, en 2 matchs, et qui a complètement disparu, et qui devait remplacer Sarr, et qui avait un super CV, et soi-disant, on devait gagner au change. Donc, j'en oublie certains.
T'as perdu ton meilleur défenseur et ton vice-capitaine, et t'as récupéré un joueur qui n'a pas joué, qui a joué 2 minutes, comme tu le dis depuis.
Voilà, et puis après, il y a eu des prêts, des retours de prêts, d'un joueur qui est parti à Toulouse, qui apparemment a l'air plutôt bon, qui joue dans l'entrejeu, qui s'appelle Diop. Oui. Donc voilà, donc il y a beaucoup de questions à ce niveau-là. Donc on a perdu quelques joueurs et puis surtout on ne s'est absolument pas renforcé.
On n'a pas dû prêter en tout cas Sow et Silla, hein, qui étaient aussi des alternatives en défense centrale, où on voit qu'avec les absences de ces derniers temps et de Doucouré notamment dimanche, les places là aussi, il y aurait des places pourtant à prendre. Ce problème d'effectif, Maxime, on le pointe, c'est un sujet qui revient régulièrement, mais qui va continuer de se poser, parce qu'on a l'impression qu'on tire sur la corde, c'est on prend des risques, Garioni prend des risques avec son effectif aujourd'hui.
Oui, et je ne suis pas sûr que certains choix, et notamment au niveau du coaching dans le match, soient pris sur des raisons de performance physique, de performance sportive au cours du match. J'ai l'exemple, je n'ai pas compris le dernier changement d'O'Neill de faire sortir Yacine, qui est dans la rotation et dans un calendrier surchargé, qui n'est pas, lui, entamé physiquement. Pour faire entrer Nanasi et laisser un Nciso qui semblait cramé physiquement, cramé dans sa tête aussi, avec une échéance d'un match retour. Alors peut-être que je me plante, hein, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans la tête du staff. Sinon j'aurais indiqué à O'Neill qu'il avait fait trois changements sur trois séquences et qu'il n'aurait pas pu changer. Mais je te laisse la balle pour ton carton rouge. Mais je pense que ce sont pour des raisons diplomatiques qu'on a gardé Nciso sur le terrain, parce qu'on connaît le caractère du bonhomme et qu'il ne faut surtout pas le faire exploser dans sa tête avec les échéances qui arrivent. Il y avait le même souci avec Emega. Il y avait le même souci avec Emega lorsque Rosenior était sur le banc.
Et qu'un paramètre qu'on ne maîtrise pas, à savoir qu'effectivement le temps de jeu aussi par rapport à certains contrats, à certains joueurs qu'on veut développer, qu'on laisse Fabien éventuellement potentiellement sur le terrain. Il y a certains clubs qui ne s'en cachent pas. Hein. Henrik est censé jouer, je crois, 25 matchs quand il a signé à Lyon en janvier, ce qui contraint à jouer quasiment tous les matchs, hein, coupe compris. On peut avoir des paramètres, un coach peut avoir des paramètres aussi compliqués à gérer que cela.
Oui, c'est des choses qui existent. Hein, c'est des choses qui existent dans les contrats. On sait que les contrats sont de plus en plus compliqués, hein, notamment avec des cabinets d'avocats, des agents qui gèrent un petit peu un environnement qui est quelquefois un petit peu plus compliqué. Je pense que notamment avec Emega, il y a la même difficulté. Hein, je partage ton avis. On a vu que c'est des caractères qui sont un petit peu plus compliqués aussi que ce qu'on pouvait gérer l'année dernière. On voit Barco qui s'affirme encore davantage, qui montre un petit peu quelquefois des signes de vers le vent. On a vu Nciso, notamment avec l'histoire un petit peu du penalty. Contre Reims où c'était un petit peu plus compliqué. Heureusement, il a eu un pénalty à tirer après, et ça a un petit peu calmé les choses. Mais bon, on voit en termes d'attitude que c'est pas non plus.
C'est quand même récurrent. Il y a quasiment à chaque match, à Rijeka encore, à la fin du match, entre Barco et
El Mourabet.
C'est quand même très récurrent cette saison.
Voilà,
enfin, c'est quasiment du jamais vu ces dernières années.
Et notamment, c'est ce qu'on l'avait relaté un petit peu, notamment après le match de Lyon. On voyait beaucoup d'énervement, même de la part de Liam Rosenior à un moment. Et on voit que peut-être, le fait d'avoir différents objectifs, le fait aussi d'avoir avoué de vouloir jouer le très haut niveau, le très haut tableau, et que peut-être qu'à un moment ça travaille sur ce groupe et que quelquefois ils ne sont pas encore prêts à pouvoir l'assimiler.
Allez, on va faire une pause, qui n'est pas une pause d'ailleurs, où tu as évoqué, Maxime, les cartons rouges de nos chroniqueurs. Et bien c'est l'heure du carton rouge de notre équipe. Fabrice, venez pour commencer. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans ce match? C'est un peu plus facile que d'habitude.
C'est assez facile en effet. Surtout mon carton rouge. Hein. J'ai pas cherché très très loin. Je me suis consacré sur le joueur qui est entré en fin de match là où j'étais installé. Donc c'est Amoah Mayou. Qui est désespérant et qui, je pense, ça va être de plus en plus compliqué pour lui parce que une partie du stade commence à tourner et ne l'encourage absolument plus, voire le chambre aisément. Alors il fait rien pour, on le voit dans son attitude. Il y a aussi un pseudo accrochage avec Barco à un moment qui a fait une ouverture. Amoah Mayou n'y est pas allé, et là on a vu Barco figé en train de le regarder avec un regard noir vis-à-vis de son coéquipier, ce qui n'a pas dû l'aider non plus. Donc voilà, c'est une vraie interrogation pour moi. C'était résumé après le match de Rijeka dans un quotidien qui suit régulièrement le Racing, qui avait cette phrase à l'issue de la rencontre où on pouvait lire « on ne sait toujours pas ce que ce joueur peut apporter à une équipe ».
C'est un peu dur, effectivement, et un triste constat. Maxime, ton carton rouge de la semaine.
Mon carton rouge de la semaine, mais donc, je vais te le laisser sur les changements parce que je l'ai déjà abordé. En fait, je vais me le faire moi-même, le carton rouge.
L'auto-carton
rouge. Oui, parce qu'il y a deux mois, j'ai été très critique envers l'état de la pelouse. Avant d'apprendre, en apprenant quelques jours après qu'elle avait été renouvelée, replantée, cette pelouse en décembre, je trouvais qu'elle n'était pas forcément de bonne qualité lors du derby, lors de la rencontre face à Metz qui n'est pas un derby. Je tenais à le souligner parce qu'effectivement la pelouse quand même depuis le mois de février.
Était une des mieux notées de France à ce moment-là en tout cas.
Oui bon. A priori, mais c'est surtout le constat que c'est un billard depuis quelques semaines et que là il faut saluer l'investissement fait par la direction du Racing et le boulot fait par les jardiniers de Racing Espace Vert qui est bien toujours le prestataire du Racing. Donc voilà, je me fais ce mea culpa et je présente
carton rouge à jouer,
sur la critique envers la pelouse.
Bravo pour ton honnêteté. Fabien.
Ben moi j'ai un carton rouge, alors on en a déjà parlé, hein, mais j'ai un carton rouge par rapport à la gestion de l'effectif du Racing Club de Strasbourg. Pour moi, notamment sur le match hier, c'était criant que il y a une problématique qui est de plus en plus présente, hein, c'est que les entrants sont pas au niveau, on a du mal à pouvoir faire des changements. Quand on fait des changements comme hier, il y avait une mauvaise gestion, puisqu'à chaque fois on utilisait trois sessions pour faire entrer un joueur, et on se retrouve après avec un joueur blessé qui doit sortir, plus la capacité de pouvoir le remplacer, et en plus un joueur justement dans un positionnement où on a pas de remplaçant à l'heure actuelle puisque c'est un arrière-gauche, on n'a plus d'arrière-gauche. On a libéré Sobol, on a Diego Moreira qui est blessé, on a deux gauchers qui sont El Mourabé et Barco, et El Mourabé a fini arrière-gauche, mais on voit que ça va être compliqué. Et moi je me pose vraiment la question comment on va pouvoir gérer cet effectif avec les prochaines échéances, et dès jeudi et dès dimanche, comment on va pouvoir évoluer là-dessus. Et c'est vraiment une grosse problématique. Et on voit que sur le banc, on a des joueurs comme Raphaël Louis, Mathis Samogou, notamment Mathis Samogou, qui est quand même un gros transfert du Racing Club de Strasbourg.
Dont on attendait effectivement
qui met pas un pied sur le terrain.
Un fantôme cette saison.
Et on se pose vraiment la question sur, je vais aller encore plus loin. Et je te donnerai la parole par rapport à ça, mais je vais encore aller plus loin. Quid de la cellule de recrutement? Depuis le départ de Loïc Désiré, je suis désolé, mais la cellule de recrutement, elle n'est plus au niveau, ou alors justement, on se trompe sur plusieurs points, et on n'arrive plus à trouver des pépites comme on pouvait en trouver avant, et c'est vraiment de plus en plus problématique.
Avec, ça rentre un peu dans la gestion de l'effectif. Signez vos messages, c'est beaucoup plus sympa quand on a votre prénom. Dans le temps, les éternels remplaçants faisaient un tour en réserve et c'était bénéfique pour tous. Il faut arrêter de faire du protectionnisme injustifié. C'est vrai qu'il n'y a plus d'équipe, véritablement d'équipe réserve. En tout cas, elle ne joue plus ce rôle-là. Ça m'intéresse comme de vous entendre là-dessus, Maxime. C'était parfois une punition, entre guillemets. Ça permettait de jouer quand même, d'aller se montrer un peu aux jeunes. Ça ne se fait plus du tout dans beaucoup de clubs. Tu en penses quoi? Nostalgique, pas du tout. Ça avait une utilité ou pas?
Bien sûr, ça avait une utilité. Ça permettait au centre de formation d'être au contact de l'équipe pro, avec un mélange de joueurs issus à la fois de l'effectif professionnel et du centre de formation. Je vous laisserai poser la question à la direction et surtout à François Keller de ce qu'il en pense. Je ne suis pas sûr qu'il y réponde à cette question. Mais c'est pour revenir et rebondir à tes propos. Aujourd'hui, la politique sportive n'est, malgré le fait qu'il y ait un directeur sportif aujourd'hui au Racing Club de Strasbourg, mais elle est liée au projet Chelsea Blue Co. Elle n'est pas liée à la direction sportive et l'intérêt strict du Racing Club de Strasbourg.
Ça, c'est un constat.
Donc, l'effectif du Racing aujourd'hui est l'effectif élargi du groupe Blue Co. C'est pas celui du Racing Club de Strasbourg. Donc, forcément, il y a des erreurs d'analyse sur les prêts, les retours de prêts, les départs qui sont en fin de mercato et qui sont pas compensés. Et on se rend compte, effectivement, avec des blessures, que on n'a plus d'arrière-gauche. Voilà.
On bricole et on est condamné à bricoler. On va parler des prochains matchs justement où il faudra peut-être encore un petit peu bricoler très rapidement. Avant la pub et la courte pause dans cette émission, on va parler de flop, on va parler de top. Allez quand même, il y a quelques joueurs. Fabrice, si tu dois en sauver un en 30 secondes dans ton dimanche après-midi, il y en a quand même un qui trouve grâce à tes yeux.
Alors pour une fois, le nouveau capitaine, Gaël Adoué.
Allez, Fabien.
Moi j'ai bien aimé Ouattara dans son positionnement. Notamment offensif, un petit peu à la Hakimi, il revenait souvent dans l'axe, il était très présent, il était solide défensivement sur un poste d'arrière latéral qui n'est pas le sien au départ, donc voilà. Et puis une petite étoile aussi pour Penders qui sur la plus grosse occasion du match pour le Paris FC a été présent, donc voilà. Ouattara, Penders.
Maxime, pour terminer.
El Mourabé qui réalise une bonne prestation et encore une belle prestation. Et pourtant, Barco, à côté de lui, n'a pas forcément réalisé un bon match. Donc il est de plus en plus essentiel, ce jeune Strasbourgeois.
Pour finir sur Penders, tiens, Fabrice, quand même, c'est vrai qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, il est peut-être un peu moins. Il fait moins parler que Petrovic la saison passée, mais on sent quand même ce jeune gardien, là aussi, monter en puissance, vraiment, sur cette saison, quand même.
Oui, bon, là, en Ligue 1, il reste sur 2 clean sheets, donc c'est toujours positif à signaler suite à ce match-là. Donc, oui, en effet, il s'améliore, il se bonifie, à l'image peut-être un peu de Petrovic, qui est monté en puissance au fil de la saison l'an passé. J'ai l'impression que le Belge prend le même itinéraire.
Allez, on va faire une courte pause dans cette émission. On va parler dans quelques instants de la suite de la saison du Racing, notamment des deux matchs au menu cette semaine, de cet effectif toujours compliqué à gérer avec ses nombreux absents, avec le choix des coupes peut-être, le championnat, la situation qui s'y complique un petit peu. Le huitième de finale retour, j'anticipe un peu. Huitième de finale retour contre Rijeka à la Méno, ce sera ce jeudi soir. Déplacement à Nantes ce dimanche. On parle du programme des Strasbourgeois dans un instant. Vous ne bougez pas, on revient. La deuxième mi-temps de ce Cop Racing. On est de retour avec l'ensemble de nos chroniqueurs. On va continuer de revenir rapidement sur ce match face au Paris FC ce dimanche à la Méno. Le Racing, messieurs, qui n'a pas fait une grande et belle opération au classement, où la situation se resserre. On vous affiche ça, vous le voyez. Ça se resserre juste derrière le Racing aussi, qui, après avoir été longtemps, pendant près de 2 mois, scotché à sa 7e place, voit tout doucement d'abord à glisser. A été dépassé par Brest, même en cours de journée, avant de reprendre sa place suite au point de ce match nul. Qui voit surtout derrière lui revenir des équipes qui, elles, n'ont souvent plus que le championnat à jouer. Fabien, c'est un peu ça la principale inquiétude. Est-ce qu'on commence à le lire entre les lignes? C'est un peu tôt quand même, peut-être à une dizaine de journées de la fin du championnat, mais est-ce que le Racing est en train de lâcher entre guillemets le championnat, ou en tout cas est-ce que le championnat est en train d'échapper au Racing?
Ouais, c'est plutôt le championnat qui est en train d'échapper au Racing, je pense, hein, puisque l'objectif est toujours une qualification européenne. Alors on peut très bien passer par les coupes. Mais
ça veut dire, on le rappelle quand même, être dans les 6, voilà, ou 7e comme l'an passé, si le vainqueur de la Coupe de France, Lens par exemple, est qualifié, mettons, en Ligue des Champions.
Après, quand on voit les équipes qui devancent le Racing, on peut dire, notamment par rapport aux prestations actuelles du Racing Club de Strasbourg, qu'on est un petit peu à notre place. C'est vrai qu'on avait pas mal d'ambition et qu'on les voyait un peu plus haut au début de saison par rapport à ce qu'ils étaient dans la capacité de produire. Ensuite, les aléas, peut-être aussi voilà, les circonstances, le fait qu'on joue sur plusieurs tableaux, qu'on n'ait peut-être pas l'effectif pour pouvoir jouer sur tous ces tableaux, et ben, pousse un petit peu le Racing un petit peu plus vers le bas des places européennes, on va dire, et vers cette 7e, 8e place qui peut-être correspond actuellement à ce que peut proposer le Racing.
Le Racing, joueur, entraîneur notamment, Fabrice, qui avait annoncé assez rapidement en début de saison vouloir gagner la Coupe d'Europe d'abord, la Coupe de France aussi pour certains joueurs. Le discours club, entre guillemets, plus institutionnel, lui, veut plutôt un classement en championnat qui, évidemment, récompense et montre un peu plus le développement du club et de l'équipe. Le Racing a-t-il tout simplement les moyens de ces ambitions-là de jouer sur les 3 tableaux?
Je pense que ça va devenir de plus en plus compliqué de réaliser ce fameux triplé qui serait historique du côté de Strasbourg. Le championnat, je pense, c'est mort. Enfin, je m'en doutais un peu, vu la taille de l'effectif, qu'il valait mieux capitaliser sur la Conference League, où on a des équipes quand même qui restent à la portée du Racing et qui a sûrement un coup à jouer. Ce qui était intéressant, c'est que le Racing a joué cette coupe sérieusement, contrairement à d'autres équipes françaises par le passé.
Beaucoup d'équipes françaises par le passé. De très 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 nombreuses équipes françaises par le passé.
Donc, par contre, pour le championnat, oui, après c'est toujours décevant, parce que si on regarde les budgets, les montants investis, c'est pas cohérent de finir dans ce ventre mou, d'autant qu'il y a des équipes en plus derrière du type Lorient qui sont sur une autre dynamique. Je serais pas étonné que le Racing finisse dans un anonymat total, 10e place, 11e place.
Ce sera un échec,
ouais. Un échec sportif.
Tu gagnes la Conference League à côté.
Oui, mais ça resterait quand même un échec. Je ne voyais pas le Racing gagner le championnat, je ne veux pas dire ça, ou dans les 3 premiers difficilement, mais au moins être dans le top 5, les places européennes, en effet, il a le potentiel, enfin, il a la carte de visite, surtout.
Et les moyens investis. Voilà. Maxime, championnat, Coupe de France, enfin, championnat ou coupe au pluriel, il fallait choisir.
Ah, qu'il faille prioriser, je pense qu'il fallait le faire peut-être un peu avant. Mais voilà, on est dans cette situation-là. On est peut-être assez critique, et moi le premier envers cette équipe, parce qu'on attend beaucoup, parce que le Racing a passé, est dans une autre sphère aujourd'hui économiquement. Mais il faut revenir à l'échelle quand même de l'histoire du Racing Club de Strasbourg. Les saisons où ce club a pu, avait l'opportunité de gagner 2 trophées dans la saison, ça se compte sur les doigts d'une main quand même. Faut revenir quand même à.
Et on était très petit.
Et on était petit, même en 79, lorsque le Racing a la possibilité de faire le doublé, il ne le réalise pas. Mais voilà, faut quand même revenir à cet essentiel-là, cette saison-là et ces discussions sur le bilan de la saison lié à sa performance en championnat sera totalement occulté si le Racing fait 2 finales, par exemple. Même sans remporter un des 2 trophées. Enfin, les 2 trophées. Donc, oui, qu'on finisse 10e, ce sera anecdotique. Ce sera anecdotique quoi qu'il arrive. Mais si tu remportes un des 2 trophées, ou même si tu fais finale, ce qui est quand même assez probable que tu fasses finale en Coupe de France, bon, à part si tu te prends une grosse pilule en finale, qui relancerait le débat sur la réussite de la saison, mais clairement, on est quand même dans les clous.
Le Racing est la seule équipe française en lice encore, on rappelle, dans les 3 compétitions. La demi-finale face à Nice, à la Méno pour la Coupe de France, pardon, ce sera fin avril pour une potentielle place en finale face au vainqueur de Lyon-Toulouse. Fabien, c'est compliqué. En même temps, on a beaucoup d'attentes par rapport à cette équipe, par rapport aux moyens investis, certes, mais par rapport à ce qu'elle a montré sur le terrain dans certains gros matchs. Forcément, on attend beaucoup, les supporters attendent beaucoup et sont parfois, effectivement, un peu déçus, parfois, comme après des matchs comme celui d'hier.
Ouais, alors les supporters attendent beaucoup, mais c'est aussi l'équipe qui veut ça. Les joueurs, à un moment, on avait un état d'esprit, on fait passer un message, on montrait qu'ils avaient envie de plus. Donc à un moment, on attend aussi les résultats derrière. Après, moi, je pense que jouer sur les 3 tableaux, c'est quelque chose, justement, c'est un problème de riche. Voilà, on a la capacité d'être encore concerné par les 3 tableaux. Bien sûr que l'effectif n'est pas suffisant pour pouvoir être performant sur les 3 tableaux, et c'est vrai que peut-être que le championnat va en pâtir. Après, comme l'a dit Maxime, à partir du moment où on est arrivé en demi-finale de Coupe de France, cet objectif prime. La Conference League, c'est un petit peu plus compliqué parce que on voulait déjà qu'à Rijeka, on s'est fait un petit peu bouger. Ensuite, on va sans doute peut-être jouer Mayence. C'est pas des charlots, Mayence. C'est une bonne équipe de football et ça va être très très compliqué. Donc voilà, si à un moment il faut prioriser quelque chose, je pense qu'il faut plutôt s'orienter peut-être vers la Coupe de France et au moins offrir au public strasbourgeois une finale. Ça permettra aussi peut-être de mettre un petit peu de conciliation entre les supporters et les dirigeants et l'équipe de Strasbourg, en tout cas je l'espère, et après par contre continuer quand même à travailler et à prendre le championnat au sérieux parce que c'est quand même la vitrine, le championnat c'est la vitrine du club, c'est la vitrine de l'équipe et c'est là où on va aussi, également les juger.
Quand on parle de prioriser, Fabrice, à un moment ça veut dire aussi pour l'entraîneur faire des choix, parce que prioriser à un moment ça veut dire préserver certains joueurs, mettre ta grosse équipe sur les matchs que tu choisis de cibler. Là pour l'instant il choisit pas Garioni, il y met quasiment, on l'a encore vu hier contre le Paris FC, on est entre 2 matchs de Coupe d'Europe avec une qualif qui est certes bien engagée après la victoire au match aller, mais qui est à confirmer évidemment jeudi soir à la Méno. Pour l'instant ça tourne pas, Panicelli était titulaire, Marco était titulaire, on met quasiment la même équipe ou presque à chaque match.
Oui, je pense qu'il peut se poser la question pour cette semaine, puisque c'est une semaine identique à la semaine dernière, où ils vont jouer jeudi puis dimanche à Nantes. Donc s'il persiste avec toujours son même 11, je ne me fais pas beaucoup d'illusions sur l'état des troupes au niveau du printemps et des futures échéances, mais j'ose espérer qu'en effet il évalue. Enfin, je pense que le match de jeudi donnera déjà quelques pistes pour la rencontre de championnat à Nantes. On verra déjà s'il y a une qualif, il pourra sans doute faire souffler quelques joueurs. Et puis là, on saura clairement que le championnat est un peu mis de côté.
En même temps, Maxime, on est encore dans les clous pour l'instant en championnat. La marge, elle est fine, on l'a dit. Enfin, on revient sur le problème d'effectif. Faire tourner, c'est très compliqué dès qu'il y a 2, 3, 4 absents comme dimanche.
Déjà, il faut faire un sans faute en championnat. Certes, le Racing ne perd pas. C'est vrai qu'il y a 2 défaites en 18 matchs. J'ai vu cette stat, toute compétition confondue, mais n'avance pas réellement en championnat. Donc, il faut réaliser un sans faute.
Il faut 3 points. Il vaut mieux perdre de temps en temps et gagner beaucoup que enchaîner les nuls comme dernier.
Et on le voit que contre malgré ce qui a pu être dit sur d'autres plateaux, que le Racing allait jouer face à des petits clubs, entre guillemets, on voit le résultat. Et on l'avait déjà vu, aperçu en première partie de championnat, que cette équipe n'était pas forcément si performante que ça face à des supposés plus petits. Maintenant, pour revenir sur la gestion de O'Neill, on revient sur le nombre de joueurs qu'il a à sa disposition et à la discussion qu'on avait avant. J'aimerais pas être à sa place et à la place du staff qui, en plus, bon, confondent le nombre de changements de séquences entre la Coupe d'Europe et la Ligue 1. Si en plus, là-dedans, ils doivent éplucher les contrats de certains joueurs et le nombre de minutes qu'ils doivent jouer parce que c'est contractualisé entre l'agent, Blouko, enfin voilà, c'est une usine à gaz, j'aimerais pas être à la place du coach parce que clairement, la tâche, elle est extrêmement compliquée.
On tire sur la corde quand même, Fabien, pour terminer sur ce registre, quand on voit Panicelli qui enchaîne les titularisations, Barco pareil, qu'on voit aussi que dans le rendement, c'est pas la même chose, c'est facile de tirer sur les joueurs pros, ouais. Parce que soi-disant qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais à un moment, le corde dit stop, on tire sur la corde, là, Garioni tire sur la corde.
On tire complètement sur la corde, mais après, c'est un problème dans lequel il aurait fallu réfléchir en amont. Je veux dire, ben voilà, on savait qu'Emega était plutôt blessé. On s'est posé la question après s'il est encore au club, hein, comme tu l'as posé, voilà. Mais on sait qu'on n'a pas de solution de rechange sur ce poste d'avant-centre. On sait qu'on a des difficultés sur le poste d'arrière-gauche. On a libéré des joueurs, peut-être, qui nous rendraient service maintenant. Voilà, c'est une réflexion en amont. Et c'est là où, justement, je reviens à mon carton rouge. Où est le sens par rapport, justement, à la gestion de l'effectif? On a des joueurs qui, notamment... on avait travaillé sur un effectif avec une tactique un petit peu différente, puisque Liam Rosenior avait plutôt l'habitude de jouer avec trois défenseurs centraux, du 3-4-3 ou du 3-5-2. Quelquefois, il revenait à 4 derrière. Mais là, Gary O'Neill, c'est vraiment du 4-2-3-1. Et on a deux milieux défensifs, El Mourabe et Barco, qu'on a du mal à pouvoir changer parce que les autres joueurs ne sont pas à leur niveau ou ne sont pas à leur poste. On joue à 4 défenseurs, et on n'a qu'un arrière-latéral gauche de métier. On a un arrière latéral droit de métier qui est Guéla Doué, derrière on n'a personne non plus, et puis on a plein de défenseurs centraux, et puis quelquefois c'est un petit peu plus compliqué. Et ben pareil, on joue maintenant avec trois milieux offensifs, on a un ciseau qui joue en vrai 10, et puis on a les milieux excentrés, et c'est la même chose. Alors on a recruté Yacine au mercato, mais c'est vrai que pour l'instant c'est encore un joueur qu'il faut polir. Et devant on a Panicelli, on a recruté aussi Vavid Fofana, mais on voit que c'est un joueur plutôt de devoir, voilà, et qu'il n'est pas prêt encore. Donc c'est vrai que les solutions de rechange ne sont pas pléthores du côté de Gary O'Neill, et qu'il est obligé de partir sur cette équipe type. Après, moi, je mets juste un petit bémol. Moi, je suis toujours déçu, parce que j'aime bien ce joueur, et c'est vrai qu'il n'est pas flashy, mais je vais revenir sur Sébastien Nanasi. Il joue un match sur Chicago. Il fait la passe d'aise à Panicelli, il marque un but, certes hors-jeu, mais il est présent. Et puis, il disparaît de nouveau.
Mais parce qu'il est très discret, voilà.
Oui,
il est maniable dans le vestiaire. C'est pas lui qui va broncher. Donc il est plus facile de se passer d'un joueur qui ne discute pas les décisions et qui n'a pas forcément de grand caractère qu'à un ciseau qui a un tempérament latin et pas forcément évident à gérer. Voilà.
C'est-à-dire que ça manque de Scandinaves, selon toi, dans l'effectif que...
Je sens un petit peu seul, peut-être.
Non, il y a Augsberg.
Oui, c'est vrai.
Oui, je sais pas si c'est un avantage. Enfin, sur le terrain, hein.
Oui.
En tout cas.
19 ans, Augsberg. J'ai été critique avec lui aussi, 19 ans, faut pas oublier que c'est un jeune défenseur. Mais c'est vrai qu'à un moment, peut-être qu'on a tendance aussi, et c'est ce côté business, merchandising, qui nous oblige peut-être à mettre quelquefois sur ce terrain des joueurs un petit peu flashy, qu'on voit justement éliminer, qu'on voit provoquer, justement pour faire monter leur cote, plutôt qu'un joueur comme à un moment Sébastien Nanasi. Alors, qui a manqué vraiment de performance, notamment en début de saison, où on l'attendait et aussi étincelant que la saison dernière, mais qui revient plutôt bien, et qui justement est un joueur qui joue plutôt simple, qui joue à une touche, mais qui est quand même à chaque fois décisif quand il rentre, je suis désolé, là, à chaque fois décisif, et je trouve qu'on lui donne pas assez sa chance.
Entièrement d'accord.
Merci.
Peut-être sur les matchs de cette semaine dont on va parler désormais, deux matchs au programme pour les hommes de Gary O'Neill, jeudi soir à la Méno, le match retour contre Rijeka, le 8e de finale de Conference League, dimanche, direction La Beaujoire pour les Strasbourgeois. On parlera dans quelques instants de cette équipe nantaise en perdition dans les bas-fonds de la Ligue 1. Petit coup d'œil au calendrier, il faudra intercaler là-dedans un éventuel quart de finale à 9 et 16 avril, la demi-finale de Coupe de France fin avril. Il pourrait y avoir de nouveau, messieurs, en cours du mois d'avril, un blow avec 3 semaines consécutives à 3 matchs par semaine. Coupe d'Europe pour commencer, Fabrice, match retour contre Rijeka. Le Racing a fait une partie du boulot, la moitié du boulot, une bonne moitié du boulot en s'imposant au match aller 2-1. on peut se permettre de gérer un petit peu en termes d'effectifs ou de jeu, ou absolument pas?
On peut se permettre, je pense. De toute façon, c'est un match, si on regarde les résultats du Racing en Coupe d'Europe, ça a toujours été des victoires avec un but d'écart. Il y a eu le match contre les Islandais de Breiðablik qu'ils avaient gagné 3-1.
Très bel accent. Bravo.
Ouais, merci. Mon côté scandinave. Et donc voilà, donc on peut un peu voir venir. Je crois que Rijeka a perdu son match de championnat à domicile contre une équipe de son championnat. Voilà, donc dimanche aussi, donc c'était pas simple pour eux. En tout cas, pour Rijeka, ce sera sans doute le match essentiel de la saison. Je trouvais que c'était une équipe plutôt dynamique sur le match aller. Une bonne équipe, bonne petite équipe européenne, dans une ambiance.
Qui s'est fait un peu cueillir en début de match, mais voilà. Qui a su mettre de l'intensité quand même jusqu'à la fin.
Donc, méfiance. Après, ce sera à la Méno. Mais le Racing a quand même des atouts à faire valoir pour passer ce tour.
Fabien, tu attends quoi de ce match? C'est le Racing a toutes les cartes en main, mais comme dit, marge minimum malgré tout.
Ouais, moi je suis d'accord avec toi. On est sur un ballotage favorable, mais attention à cette équipe croate. Hein. On sait justement la fierté de ces peuples-là. Hein. On sait qu'ils vont rien lâcher. On sait qu'en ce moment le Racing, justement, est en difficulté, notamment pour marquer des buts. Alors on arrive à mettre deux buts là-bas, mais on voit qu'en championnat c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on sort de 2-0 consécutifs. Donc attention, un match peut-être piège. Si on prend le premier but, on va commencer à douter. On n'a pas l'habitude de pouvoir gérer ces moments-là. On va peut-être à nouveau faire preuve un petit peu d'énervement et de sérénité parce que justement on a la pression de l'objectif derrière, ce qu'aura pas Rijeka. Donc voilà, c'est un match compliqué à prendre par le bon bout. Est-ce que justement physiquement on aura la capacité de pouvoir récupérer? Est-ce qu'on va retrouver un petit peu ses talents? Est-ce qu'on va retrouver de la créativité? Est-ce que les nouveaux entrants, s'il y a du turnover, vont se mettre à niveau et vont pouvoir apporter quelque chose, ce qu'on n'a pas vu sur les derniers temps? Voilà, c'est toutes les inconnues qui sont présentes sur ce match-là. J'espère sincèrement que le Racing va se qualifier, mais attention, c'est un match très très compliqué.
Un peu piège aussi peut-être, Maxime, ce côté pour une équipe surtout jeune et donc par définition inexpérimentée comme le Racing, cette position. Alors, confortable d'avoir un but d'avance, mais parfois un petit peu inconfortable dans le jeu, parce qu'on est qualifié au coup d'envoi, donc le Racing est une équipe qui va de l'avant, en même temps il ne faut pas prendre de risques, le temps travaille pour nous, mais en même temps, Rijeka, eux, la donne sera claire, il faudra marquer et gagner ce match pour se qualifier, c'est toujours une part d'inconfort. Parfois, certaines équipes ont parfois du mal avec ce genre de scénario.
Surtout avec un effectif inexpérimenté à ce niveau-là de la compétition, le Racing a tout à perdre. Et les Croates ont tout à gagner. Vous mettez là-dedans le fait que le Racing, le Racing peut perdre le match. Hein. Moi, je suis assez surpris, messieurs. J'étais surpris d'ailleurs par tous les commentaires que j'ai pu entendre, lire et voir. Le Racing s'en sort bien quand même au match aller. Ne me dites pas que la marche
est dure.
S'il y a 2-0,
s'il y a 2-2. À la fin du match,
sur les dernières minutes, sur les 20 minutes, il va y avoir 5-2 pour le Racing.
C'est justement sur ce money time où il y a une pression et que physiquement et mentalement tu commences un petit peu à flancher et que tu as des Croates avec une culture balkanique qui vont tout donner. Ce match, il est piège. Clairement, il y a beaucoup d'ingrédients qui me font penser que ce Racing peut sortir dès ce jeudi parce que les CV physiquement. Parce que je suis persuadé que dans ce vestiaire, tout ne tourne pas forcément si rond.
Christian, je crois qu'il nous a une remarque là-dessus aussi. Quid du vestiaire? On sent peut-être un peu de légèreté s'est envolé dans
Oui, et puis avec un Barco qui est quand même assez clivant, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que t'as tes coéquipiers vont se donner à 100%, à 200%? Parce que parfois, dans des matchs comme coup près comme ça, il faut se donner violence pour son camarade parce qu'il est à la pêche sur le terrain, débordé. Mais je suis pas convaincu de ça. Moi, je suis pas convaincu que cette équipe, elle peut se saigner quand elle est réellement dans la difficulté. Et les matchs couperés comme ça de Coupe d'Europe en aller-retour, où la physionomie du match, où le scénario peut être totalement incertain, je suis pas certain que cette équipe-là soit au rendez-vous dans ces moments-là.
ce sera un bon test jeudi soir. À la Méno, on va, parce que le temps en tourne vite, trop vite, très vite, enchaîner. Il y aura un déplacement du côté de Nantes. Nantes qui a changé d'entraîneur avec le retour des anciens Strasbourgeois. Ce succès d'un Ahmed Kantari licencié, parce que c'était l'année avec Jean-Pierre Papin, si je dis pas de sottises. À l'époque en Ligue 2, Antoine Comboiré, qu'on connaît bien aussi à la Méno, qui lui a succédé. Là, regardez ces quelques chiffres sur la dure, très dure série des Nantais. 10 défaites sur les 12 derniers matchs. Ils sont 17e avant-dernier, juste devant le FC Metz. Fabrice, alors il y a toujours la version optimiste de dire que bon, allez, ça quand même, c'est un match où le Racing qui réussit plutôt bien à la Beaujoire. En plus, Eden Arzen doit faire quelque chose. Fred Vogel serait sur ce plateau, il te parlerait du FC Relance qui a tendance, le Racing, le côté social du Racing qui relance les mauvaises équipes. Pas le droit à l'erreur à Nantes dimanche.
Ouais, ouais, ouais. Bon, après, Nantes s'est reposé. Nantes arrivera très frais.
C'est vrai.
En plus, coach Vaïd.
Le de leur match, on peut Paris
coach Vaïd leur aura sûrement concocté un petit stage foncier. Donc,
je sais pas pourquoi du Comboiré, je sais pas pourquoi. Ouais. Quand il a dit rien à voir, pardon.
Voilà, c'était. Mais Comboiré était là dimanche dernier, c'est peut-être pour ça. Donc Nantes, normalement, il y aura peut-être un effet Vaïd qui se passera là-bas. J'y crois moyen quand même parce que c'est un peu old school comme association. Mais après, pour le Racing, jeudi sera le résultat de jeudi sera déjà partie du résultat de dimanche.
Dimanche, selon toi, c'est un match typiquement où on peut ou on doit faire tourner Fabien.
On doit, oui, on peut.
Je
suis un petit peu plus sceptique puisque justement il y a toujours cette obligation du résultat et puis Nantes voilà, Nantes a plutôt bien recruté au mercato quand même, c'est plus la même équipe même si la dynamique est toujours pas extrêmement positive, mais c'est quand même une équipe qui a des atouts comme on a dit, avec un nouvel entraîneur, souvent voilà, le joueur a envie de se montrer quand il y a un changement d'entraîneur, on sait aussi de la stratégie. Bon, on l'avait Comboiré, hein. On vient avec une équipe malade, et ben on joue avec un bloc bas, on essaie de contrôler le 0-0, et puis peut-être à un moment on commence à sortir au bout de la 70e minute, et puis ben on sait jamais, sur une petite occasion on arrive à mettre le but du 1-0. C'est pas une équipe qui va jouer, le Racing a du mal contre ces équipes là donc voilà, c'est encore une fois, ça va encore être un match piège, un peu comme le match de jeudi. C'est des matchs que le Racing n'aime pas pour l'instant jouer, parce qu'il manque encore peut-être cette maturité pour pouvoir contrôler le rythme et le tempo de ces matchs là et ben on va voir si au fur et à mesure et ben on progresse. On arrive à percer le verrou de ces équipes-là.
Pour rappel au match aller, le Racing s'était très longtemps cassé les dents sur la défense des Canaries, souvenez-vous. Ça remonte un petit peu, c'était le deuxième match de la saison, le premier à la Méno, c'était au mois d'août, le Racing s'était imposé un petit but à zéro sur une réalisation d'Emmanuel Emega à l'époque, toi qui en parlais Maxime, où il était sur le terrain un peu plus souvent. Très rapidement Maxime, sur ce match, pareil, match piège là aussi, c'est quoi? C'est deux pièges dans la semaine, ou non, le Racing tout simplement, de par son classement, son statut, doit faire le boulot à la Beaujoire?
En fait, j'ai du mal à me projeter parce que je pense que le match retour jeudi est tellement finalement important, et l'enjeu est bien plus important à tous les niveaux, qui conditionne la fin de saison du Racing, que finalement ce match à Nantes passe presque anecdotique.
On y pensera vendredi matin.
Oui, avec la déception ou la joie d'une qualification, mais il faut étape par étape, et je pense que c'est trop tôt pour se projeter sur Nantes. Donc je peux pas vous donner une analyse, je suis désolé, d'un ressenti.
Eh bien c'est pas grave, on va passer à la suite alors. Ok, je note que tu refuses de répondre. Allez, on va faire une très courte pause dans cette émission, on revient dans un instant, on va faire un petit coup d'œil dans l'actu du sport alsacien de ce week-end. La SIG notamment qui s'est inclinée du côté de Nanterre, regardez.
La SIG, toujours dans une mauvaise passe, battue pour la quatrième fois de suite sur le parquet de Nanterre ce week-end. Malgré les 29 points de Marcus Kinn, les Alsaciens, toujours quatrième du classement, s'inclinent lourdement 102 à 88. Au bout du suspense, l'AZA remporte un match important dans la course à la qualification en play-in d'Elite 2. Grâce à ce tir signé Guide Noël à la toute dernière seconde, les Alsaciens s'imposent 85-83 contre un concurrent direct Antibes. Voilà l'AZA 11e avant d'aller à Évreux. Handball, nouveau revers pour Célestat, défaite 38-33 contre Montpellier. 12e du classement après cette 3e défaite de rang. Prochain rendez-vous dans 2 semaines à Chambéry.
Et pour conclure cette émission, et comme chaque semaine, c'est bien sûr l'heure du temps additionnel, les coups de cœur, les coups de projecteur de l'équipe et des chroniqueurs de Cop Racing, c'est tout de suite. Fabrice, venez pour commencer ton ton temps additionnel à toi, qu'est-ce que tu as retenu, pas forcément de ce match de dimanche, mais ça peut être si quelque chose de ce match.
Non, ce que j'ai retenu, c'est la volonté de la Fédération française de football d'avancer la finale de la Coupe de France au vendredi, pour des raisons d'indisponibilité
de travaux sur les lignes RER autour du Stade de France, voilà. Le samedi qui est la date prévue au départ.
Voilà, la Coupe de France pour moi, c'est le samedi.
C'est pas négociable.
C'est pas négociable. Donc tant pis s'il y a les travaux, elle peut se dérouler ailleurs dans un autre stade, mais que la Fédé insiste pour que ce soit le vendredi, je pense que ce serait pas très judicieux pour en faire une fête du football qui réunit tous les supporters.
Et les nombreux supporters des différents clubs finalistes à chaque fois qui voudraient faire le déplacement, ceux du Racing par exemple, pourquoi pas, qui pourraient retrouver ceux de Lens, ça ferait une sacrée belle affiche. Fabien.
Moi un petit clin d'œil par rapport au match de dimanche, puisque bon, ça se fait de plus en plus dans le football actuel, mais on avait deux entraîneurs qui n'avaient pas débuté avec ces équipes en début de saison, donc voilà deux entraîneurs qui sont arrivés en cours de saison, et c'est vrai que c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans le football actuel, mais qu'on devrait voir de moins en moins souvent, notamment quand on voit notre collègue Damien Haute qui vient nous voir, c'était un petit clin d'œil avec justement un match différent du match aller, puisqu'on avait deux styles complètement différents, avec un match très offensif où le Racing gagnait 3-2 et là un style plutôt défensif avec un Antoine Camboiré qui a mis le bus devant le but, et puis un petit 0-0, donc voilà deux entraîneurs qui sont arrivés en cours de saison avec leur style particulier qui donnent leur style à leur équipe. Voilà, c'était un petit clin d'œil.
Maxime, pour terminer ce tour de table.
On a été très critiques sur la programmation des matchs du dimanche 15h, qui nous ont souvent offert des bonnes purges, hein, et pas que cette saison, ça date quand même d'il y a quelques années, cette
c'est
programmation
l'horaire, en fait,
du dimanche
problème.
15h. Mon clin d'œil et ma satisfaction, c'est le retour des matchs le samedi à 20h, dès
la
saison prochaine. Et le retour du multi samedi 20h, ça c'est le foot, messieurs. Ça c'est le foot.
C'est notre enfance à la radio, les multiplex.
Exactement.
Avant même les multiplex à la télé. C'est une vieille requête de beaucoup d'associations de supporters à travers la France. On a presque fini par oublier que ça existait.
Oui, tout à fait.
Le foot, c'est le samedi.
C'était ton enfance aussi, Fabrice.
Tout à fait. La Coupe de France aussi le samedi. Donc tout le foot le samedi, c'est parfait.
Allez, il y a des rendez-vous football et en 30 secondes aussi, pareil, pour vous dire que nous vous proposons sur BFM Alsace chaque semaine les matchs du FC Sochaux qui a encore gagné ce week-end du côté face à Concarneau. Équipe, c'est très serré en national. Fabrice, tu suis un petit peu le parcours des... On peut nouveau dire les Lyonceaux, puisque Peugeot a re-signé pour être sur le maillot à partir de cette saison, d'ailleurs, cette déjà saison. Depuis lors.
Oui, c'est un joli clin d'œil pour cette équipe-là. Après, je ne suis pas vraiment Sochaux, à vrai dire. Je m'intéresse davantage à des équipes un peu plus exotiques.
Exotiques
comme Versailles, Paris Atlético 13, ce genre de choses. Quoi.
Des
équipes éphémères, parce que je me dis qu'elles risquent de disparaître aussi vite qu'elles sont apparues.
Donc il faut en profiter. Championnat très particulier. Tu gardes un œil dessus, Fabien, ou c'est compliqué?
Après le championnat national, c'est toujours un petit guet-apens. Hein. C'est toujours très très compliqué de pouvoir s'en sortir. En plus, avec la refonte l'année prochaine, le championnat national devient la Ligue 3. Donc il y a deux montées. Il y a le troisième qui joue les barrages. Pour l'instant, Sochaux est passé pour les barrages. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'on avait 12 000 personnes au Stade Bonal sur un match de national. C'est toujours quelque chose.
On rappelle presque des choses.
D'intéressant. Voilà, ça nous rappelle un petit peu aussi ce qui s'est passé au Racing Club de Strasbourg, donc on souhaite la même chose à nos amis sochaliens.
Allez, pour revoir ce public et ce stade au moins un petit peu plus haut que la Ligue 3, j'allais dire, que le National, entre guillemets, pour commencer. Merci beaucoup, messieurs, c'est la fin de ce Cup Racing. Merci à tous les trois d'avoir été sur le plateau ce lundi soir. On rappelle le calendrier du Racing, match retour contre Rijeka, ça sera ce jeudi soir à la Méno, coup d'envoi à 21h. Déplacement à la Beaujoire dimanche en clôture de cette nouvelle journée de Ligue 1. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été sur ce plateau. Merci à Ambre Jadli qui était aux manettes de cette émission avec brio comme chaque lundi. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Excellente semaine à toutes et à tous.